on peut substituer la matraque à la conversation, les mots conserveront toujours leur pouvoir. Les mots sont le support de la compréhension et pour ceux qui les écouteront, l'énonciation de la vérité. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas ?
Camarades, d'aucuns diront que le syndicalisme est à la société moderne ce que le mercurochrome est à la jambe de bois.
Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission des yeux grands ouverts. Alors ce soir, déjà je vous souhaite vraiment la bienvenue. Il est 11h15, l'équipe d'avant a fini un tout petit peu plus tard, donc on commence un peu plus tard et on finira aussi un peu plus tard. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Donc déjà, je voudrais signaler que vous êtes sur Radio Canu 102.2 FM, que dans cette émission, les yeux grands ouverts, vous avez la possibilité de faire passer des messages aussi par l'intermédiaire d'une boîte mail que vous pouvez trouver à l'adresse suivante. Donc c'est lesyeuxgrandsouverts@laposte.net et vous avez également une page Facebook qui s'appelle aussi Les Yeux Grands Ouverts tout attaché, tout avec un S. Et donc dans cette émission, c'est une émission thématique où on parle un peu de tout. Là en ce moment, depuis quelques émissions, le thème que l'on essaye de développer et d'étudier et d'analyser en profondeur, c'est les médias de masse. Donc lors des deux précédentes émissions, on a un peu évoqué divers sujets, les médiacrates, les personnes qui squattent un peu les plateaux télé et qui sont réputées, on convoite partout. On s'est attaqué un peu à Duhamel, El Kabash, Pujadas et d'autres. Et puis voilà, donc c'est pour l'instant c'est de ça qu'on a parlé. Aujourd'hui, on va continuer à parler des médias, mais on va l'aborder sur un thème légèrement différent. On va rentrer, l'aborder, disons, d'un côté plus sociologique. Alors, je sais pas si vous avez entendu l'intro, donc du coup dans le podcast, elle y sera pas parce que j'ai enregistré trop tard. Mais le petit passage que je vous ai cité, c'est un extrait du livre de Pierre Bourdieu qui s'appelle « Sur la télévision ». Petit extrait qui explique en gros que les journalistes, comme ils sont un peu, comment dire, ils ont tendance à traîner énormément entre eux. Le fait que les journalistes au demeurant ont beaucoup de propriétés communes, de conditions, mais aussi d'origine, de formation, se lisent les uns les autres, se voient les uns les autres, se rencontrent constamment les uns les autres dans les débats où on le revoit toujours les mêmes, a des effets de fermeture. Ce qui veut dire, c'est que, en fait, à force de traîner tous ensemble et de se relier et de ne rien voir et de ne rien entendre à ce qui se passe en dehors de leur petit milieu, ils finissent par s'auto-censurer et à prendre les décisions, à poser les questions qui conviennent à ce milieu-là et ils oublient un peu de prendre du recul parfois. Il dit aussi qu'il ne faut pas hésiter à le dire, que c'est de la censure aussi efficace qu'une bureaucratie centrale pourrait l'effectuer, ou une intervention politique. Il dit même qu'elle est plus efficace parce que le principe en est invisible et que les gens n'en ont pas conscience. Voilà, donc c'est un petit extrait du livre de Pierre Bourdieu. Alors, lors de la semaine dernière, nous avons décidé, donc, comme je disais, de désinguer certaines des personnalités de l'audiovisuel, qui par leur présence permanente dans les médias biaisent le débat politique, dans leur manière de poser les questions ou par d'autres aspects. L'exemple que j'avais donc décidé de choisir, c'était celui de David Pujadas, qui est présent dans la plupart des grandes émissions politiques, des interviews de présidents, et qui est également présent au quotidien dans le journal de 20h, et qui par conséquent fait l'actualité. J'avais pas mal de documents audio pour l'illustrer, mais surtout pour illustrer la déontologie de cet homme par rapport au métier de journaliste. Je vous invite donc à réécouter le podcast sur notre blog, pour ceux qui ont loupé ça. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai oublié de signaler au départ de l'émission. Comme on a dépassé les 2 mois, et ça fait 2 mois que l'émission est sur cette radio, maintenant il y a un blog. Donc vous allez sur le site de Radio Canu, vous tapez tout simplement, vous cliquez dans la programmation, vous allez avoir tout le planning avec toutes les émissions et vous cliquez sur les yeux grands ouverts et vous allez tomber directement sur le blog. Et là, sur ce blog, il y aura la possibilité de choper les podcasts. Pour l'instant, il n'y en a que 2 qui ont été mis, que les 2 premières émissions sur les médias, mais il y aura les précédentes aussi. Voilà, donc petit aparté. Je disais donc qu'on parlait dans la dernière émission de la déontologie journalistique de David Pujadas. Donc je vous invite à écouter le podcast. On a ensuite essayé par la suite dans l'émission d'attaquer la pluralité des médias d'un point de vue plus marxiste, ce qui sous-entend qu'on s'intéresse aux intérêts de classe qui déterminent les points de vue. On a donc démontré que les grands journalistes cumulards n'avaient pas trop envie qu'on sache combien ils gagnaient, car cela pouvait les discréditer en tant que porte-parole du peuple, qui s'occupe de poser des questions aux hommes politiques sur les mesures à prendre pour le peuple, sans que personne ne les ait élus d'ailleurs, hein, si ce n'est un patron de chaîne. Voilà, toutes ces personnes sont là, mais elles doivent rendre de compte à personne au final. Déjà, on est en droit de se demander qui sont-ils pour avoir le droit d'être là et de faire l'actu. Bref, enfin, ça c'est encore une autre question. On verra plus tard. On va constater que les réactions des journalistes, que la réaction des journalistes était surtout de ne pas avoir envie de dire ce qu'ils gagnaient en fait. C'est quand même assez révélateur. Ils savent très bien que s'ils disent réellement combien ils gagnent. Il y a plein de personnes derrière leur petit écran qui touchent un SMIC ou peut-être même moins, hein, qui vont se dire non mais attends, cette personne-là elle est chargée d'interviewer l'homme politique que je vais peut-être ou pas élire, alors que les questions qu'il va lui poser seront complètement désintéressées de ma réalité, quoi. Alors reprenons notre vaste entreprise d'éclairage sur ce système médiatique, ce que d'autres appellent la méthode Dracula, on va essayer de l'entreprendre, c'est-à-dire qu'une fois dans le noir, on a tous peur, et lui il se porte très bien, mais lorsque le soleil et la lumière pointent leur nez, alors le discernement devient plus clair et Dracula part en fumée. On va essayer de faire parallèle avec le système médiatique. On va attaquer cette semaine un point de vue plus bourdieusien, un néologisme inspiré par le sociologue du même nom. Je suis désolé si c'est pas pour être pédant ni quoi que ce soit. C'est donc le sociologue Pierre Bourdieu, donc je vous disais, dont je vous parlais au début de l'émission, qui m'a permis de faire cette petite intro. Homme réputé pour ses travaux ayant énormément fait avancer la sociologie grâce à l'invention de concepts comme la violence symbolique ou le capital culturel, qui en fait définit les ressentis que peuvent avoir dans la vie de tous les jours certaines personnes par rapport à des personnes qui sont mieux éduquées ou pas du même milieu social. Oui, voilà. Et par exemple, le capital culturel aussi, quand il parle de ça, il explique que quand on est issu d'une famille avec un capital culturel, on est forcément complètement inégal par rapport à une personne qui est issue d'un milieu très populaire et qui n'a pas l'accès à la culture ou plein d'autres choses. Enfin, c'est des concepts qu'il a inventés, qu'il a beaucoup plus approfondis. Là, je les évoque dans les grandes lignes, on va dire. Alors, on sait par divers moyens que la censure est présente dans les médias. Elle s'exerce de différentes manières. Il y a celle du pouvoir financier, qu'on a un peu évoqué, qui influence donc le pouvoir financier, qui choisit les lignes éditoriales dans les grands médias privés. Il y a celle du pouvoir politique, dans certains cas sur le service public, ça peut arriver. Mais ce serait une erreur de s'arrêter uniquement à ces aspects. Autrefois, les différences entre les thèmes et la manière dont étaient menés les débats dans les médias de service public et les médias privés commerciaux étaient plus différentes. Malheureusement, aujourd'hui, les altérités sont de plus en plus resserrées, faibles et infimes. Personnellement, je dirais que la différence de traitement entre ces deux types de médias est à peu près la même qu'entre les deux types de médias dont je parle, donc c'est les médias de service public et les médias privés. La différence entre les deux est un peu la même qu'entre un journal comme Libé et Les Échos, par exemple. C'est-à-dire, il y en a un qui est centre-droit et l'autre qui est de centre-gauche. La différence significative est donc non négligeable. Il faut bien la concéder. Elle tient seulement au fait qu'il n'y a plus de pub dans les médias publics. Ça, c'est vrai que c'est une différence quand même qui reste sur le fond. Mais sur le fond, ça reste la même chose. Les débats qui sont menés sont approximativement les mêmes et les points de vue aussi. En fait, ça s'explique par le fait que les journalistes présents sur les diverses chaînes de services publics ou privés restaient autrefois plus ou moins longtemps par principe sur le service public, par conviction. Avant, ça existait. Il y avait des journalistes qui ont fait leur carrière entière sur le service public. Or maintenant, aujourd'hui, chacun des journalistes présents sur le service public sont des personnages qui ont passé leur carrière à faire la navette entre privé et public, passant de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Où est le problème, me direz-vous? On trouve du travail là où on nous en propose. Certes, je suis d'accord, mais cela signifie qu'un journaliste de médias privés qui a été formé pour faire de l'audimat, car rappelons que l'objectif d'un média privé, c'est faire des profits, faire de l'audimat. Et pour cela, petit aparté, comment font-ils? Ils captent le plus de personnes possible, ils tentent d'obtenir le plus large audimat afin de vendre leur pub le plus cher possible aux annonceurs. Donc un journaliste ayant travaillé dans le privé, ayant fait de l'audimat la priorité de sa ligne éditoriale et non pas la qualité de son information, a une manière de préparer son journal et ses interventions qui ne favorise pas forcément une info libre et indépendante puisqu'il est soumis à la pression du nombre de personnes captées pour vendre le plus de messages publicitaires. Nous expliquerons par quels aspects cela se manifeste après, mais c'est un peu pour poser les grandes lignes. Un média de service public, lui, porte bien son nom. Il doit être au service du peuple, logiquement. Il ne doit pas avoir pour objectif de remplir des caisses. Il doit produire une information libre qui sert et informe le peuple sereinement. quitte à perdre de l'argent dans certaines situations. Vraiment, l'objectif premier n'est pas de faire du profit. L'audimat ne peut pas être la priorité du service public. Et pourtant, et aujourd'hui c'est uniquement de cela dont il est question, de l'audimat dans les services publics. Puisque des journalistes comme Pujadas et d'autres ont été recrutés par le service public parce qu'il avait été formé par TF1 et LCI, donc ils avaient les recettes de l'audimat, c'est pour ça qu'on les a recrutés. Puisque ces chaînes-là marchaient mieux à l'époque que le service public qui avait un peu du mal. Et donc les journalistes de service public n'existent plus, puisque tous font la navette entre l'un et l'autre, en exportant leurs thèmes avec eux et leur manière de poser des questions et leur philosophie du journalisme. Et le peu qui reste, le peu de journalistes de service public se font virer rapidement. Je dirais que l'un des derniers qui restait, c'était Daniel Mermet, qui était là depuis juste plus 20 ans ou un truc comme ça. Et là maintenant, il faut chercher, il faut s'accrocher sur le service public pour trouver des animateurs de service public. Ils ont tous fait la navette entre toutes les chaînes, et toutes les radios d'ailleurs aussi. Pour comprendre là où je veux en venir, il est nécessaire de comprendre que la différence fondamentale qu'il existe entre l'entreprise privée et celle de service public, entre fonction commerciale et fonction publique. Je donne un exemple plus concret qui ne concerne pas les médias. Prenons le cas d'une entreprise de service public et l'autre d'un statut privé, pour l'énergie par exemple. Imaginons qu'on est dans une commune très isolée, avec un nombre très faible d'habitants, et qu'un poteau électrique se soit effondré suite à des intempéries. Et mettons, on va émettre alors deux hypothèses différentes, l'une où il y a une entreprise publique et l'autre... Donc une où il y a une entreprise publique qui gère le réseau électrique et l'autre où on est dans un pays où tout est privatisé et que l'électricité est un bien de marché comme les autres. Que croyez-vous qui va se passer dans cette situation ? Dans le village géré par le service public, le changement sera fait avec les réparations dans les délais les plus accessibles par rapport aux moyens attribués au service en question, évidemment. Donc dans le cas d'une politique d'austérité comme il y a en ce moment chez nous, ça sera pas rapide, mais quoi qu'il en soit, on ira le faire. Car l'entreprise de service public détermine que l'électricité est un bien qui doit être accessible à tous. Donc par conséquent, on ira réparer ce poteau qui nuit au fonctionnement du réseau au plus vite pour que les citoyens aient accès au réseau le plus vite possible, quelles qu'en soient les conditions. Alors que, dans le cas d'une ville où le réseau est privé, on va se poser la question dans l'entreprise, dans les têtes pensantes de la gestion de l'entreprise, on va se poser la question de savoir si les réparations vont coûter cher, si le déplacement est loin, si le retour sur investissement de ces réparations sera rapide ou non. Et s'il s'agit d'un petit village avec très peu d'habitants, le retour sur investissement sera forcément très très faible, car le montant des paiements des abonnements d'électricité par ces habitants est très faible, étant donné leur petit nombre. Donc la réparation risque de traîner énormément, de ne peut-être pas se faire, et en plus d'être faite de manière à rentabiliser le plus, donc avec une qualité moindre pour un moindre coût. Ça, c'est la philosophie du média et aussi de l'entreprise privée. C'est-à-dire, on essaie de limiter les coûts le plus possible parce que l'objectif premier, c'est vraiment de faire du profit. Alors, je pourrais donner d'autres exemples. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais que je ne sais plus, c'était il y a une quinzaine d'années où sur le réseau ferroviaire en Angleterre, ils avaient tenté de privatiser ça, mais ils ont fini par renationaliser parce que les usagers s'étaient énormément plaints. Parce que, tout simplement, les trains, il y en avait beaucoup moins, parce qu'il fallait rentabiliser, donc il fallait que le plus de gens possible montent dans un train pour que ça coûte moins cher. Il y avait des réseaux où il y avait très peu des lignes où il y avait très peu de personnes qui utilisaient le train, donc forcément, on les a laissés tomber en miettes, parce qu'on n'avait pas envie de les entretenir, parce que ça ne rapportait pas d'argent. Il y a même tout un tas de lignes qui ont été totalement supprimées, parce qu'elles ne rapportaient pas d'argent. Alors forcément, derrière, les gens ne pouvaient plus prendre le train, ou alors quand ils le prenaient, c'était dans un état lamentable parce qu'on essayait de limiter les coûts. Que dans le cas où c'est entretenu par l'État, forcément, il y a des lignes un peu exceptionnelles dans des coins un peu perdus parfois. Je ne dis pas que c'est impeccable désormais aujourd'hui, mais sur le principe, c'est comme ça que ça doit se passer. Aujourd'hui, on est un peu dans un mode de pensée particulier puisqu'il y a une politique d'austérité qui est menée, donc on essaye de couper dans toutes les dépenses. Alors forcément, ça crée des problèmes. J'explique tout ça pour faire accepter le fait que l'audimat et la rentabilité ne peuvent pas être l'alpha et l'oméga dans un média. Car ils sont mauvaises conseillères pour la qualité de service, la pérennité et l'intérêt général commun. Il est donc nécessaire de comprendre que la philosophie et la déontologie journalistique défendue dans un média de service public ne doit pas et ne peut pas être la même que dans les médias commerciaux. Et c'est pourtant ce qui est favorisé aujourd'hui par ces transferts incessants de personnalités formées par le privé qui viennent désormais occuper leurs fonctions journalistiques dans le service public. Et surtout, que les nouveaux dirigeants de Radio France font des erreurs en ne basant leur jugement sur la nécessité ou non de conserver certaines émissions que sur l'audimat. Ils devraient aussi se demander, est-ce que cela répond à une demande ? Oui, certes, les parts de marché sont un peu faibles pour certaines émissions, mais cela répond bel et bien à une demande. Alors on laisse cette émission. Le service public n'a pas vocation à faire de l'info globalisante abrutissante, mais à aller chercher l'info et la culture, même compliquée et difficile d'accès, et doit tenter d'éduquer le peuple à ces cultures qui, au premier abord, peuvent paraître difficiles. Voilà, il faut bien saisir la différence entre les deux. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de continuer à défendre ces missions de service public, même si des moments on se dit que ça nous fait chier, on va utiliser le terme, ça nous fait chier de payer la redevance télé, mais si vous regardez bien, les seuls programmes où on peut se permettre, les seules chaînes, qu'elles soient de radio ou de télé, où on peut se permettre certains programmes un peu différents, c'est sur le service public. Sinon, si vous regardez les autres chaînes, TF1 c'est une catastrophe, enfin bref, on va pas tout énoncer. Quels sont les travers de ce besoin de faire l'audimat que je dénonce là? J'ai expliqué dans le privé, le but c'est de faire de l'audimat, alors forcément ça va déteindre et ça va avoir des conséquences sur la manière de mener un débat ou de faire un résumé d'actualité ou de présenter certaines émissions. Je vais rentrer un peu plus dans la subtilité de la chose, comme je vous l'ai dit plus tôt, car comme disait le poète, le diable est dans les détails. Ces travers existent dans de nombreux médias, que ce soit la presse écrite ou la presse audiovisuelle. Travers qui peut conduire à une forme de censure. Puisque si dans certains cas on estime que des infos qui sont malgré tout importantes ne vont pas intéresser le public, on peut être amené à ne pas les évoquer, ou à en parler de la mauvaise manière, en montrant un aspect qui omettra le fond et trompera sur ce qui se déroule réellement dans notre pays. La recherche de la vente va forcément amener le journaliste à présenter ses journaux sous un jour particulier. Lequel est-il ? Il va alors tomber dans ce qu'on appelle le sensationnalisme, le spectaculaire, tenter de flatter les bas instincts. C'est ce qu'il va tenter de faire sur le public, pour la pâter. Ils vont appeler à la dramatisation, au double sens. Ils vont mettre en scène, en image, un événement et en exagérer l'importance, la gravité et le caractère dramatique et tragique. Par exemple, on va parler des banlieues, en ne parlant que des émeutes et de la violence, ce qui forcément va intriguer les gens, curieux de savoir ce qui se passe dans ces milieux, ce qui s'y passe. Et de par leur méfiance ou juste par leur curiosité, ils vont creuser un peu, ils vont chercher à savoir. Enfin, ils vont pas creuser du tout, ils vont prendre les infos que leur envoient les médias, des choses qui sont sensationnelles comme celle-ci. Et on sait tous que ce qui est apte à nous faire peur, de par ses aspects anxiogènes, capte beaucoup plus notre attention. Alors là, je vais rentrer un peu dans le côté plus scientifique, mais ça s'explique même au niveau cognitif, c'est-à-dire au niveau neurologique dans notre cerveau. Selon un Michel Desmurget, qui est neurologue et auteur du livre TV Lobotomie, le cerveau humain retient toujours mieux une info anxiogène ou ce qui l'entoure, ce qui la précède ou ce qui la suit, une situation angoissante, car cela s'explique au niveau évolutif et cérébral par le fait que lorsque vous avez peur et que vous êtes angoissé, pour votre cerveau c'est certainement parce que vous avez été confronté à une situation dangereuse. Alors vous avez tout intérêt à vous en souvenir. Pour ne pas vous remettre dans cette situation, et ainsi l'éviter. Donc dans ce cas, le cerveau angoissé a une capacité de mémorisation supérieure. Ce qui est tout bénef au final pour l'info qui passe, parce qu'on va la capter, on va la prendre, on va commencer à avoir peur, donc ça intéresse certaines personnes. Et derrière, les messages publicitaires qui vont passer, notre cerveau, qui est dans un état d'anxiété supérieur, les mémorisera encore mieux. On comprend tout de suite un peu mieux pourquoi on peut à certains moments montrer des images un peu violentes dans les journaux télé ou n'importe quand. Enfin, moi je sais que ça m'arrive très rarement de regarder la télé, mais parfois j'allume le journal télé sur telle ou telle chaîne, peu importe, et je vois qu'on montre des enfants mutilés, du sang de partout, des trucs comme ça. Et je me dis forcément une personne qui regarde ça tous les jours, elle doit être un peu angoissée, quoi. Alors derrière le message publicitaire, il est mieux imprimé dans le cerveau, et ça les industriels ils sont très contents de ça. Alors voilà un aspect du sensationnalisme, certains peuvent penser que je tombe dans l'excès, hein. Mais déjà pas mal de bouquins de neurologues ont été publiés sur ce sujet, et des tas d'études scientifiques également, donc ce ne sont pas des conneries. Au contraire, c'est un travail de fond, dont une grande partie de l'élite n'a pas vraiment envie que nous nous y intéressons. Enfin, ils n'ont pas trop envie qu'on se pose des questions là-dessus, sur le fonctionnement de la télé et les effets réels que ça a sur le cerveau. D'ailleurs, on n'en entend parler nulle part, hein, si vous regardez bien. Et je dirais plus, même... Que nous-mêmes, nous pouvons, certaines personnes peuvent refuser de l'admettre, mais pourtant c'est la réalité. La télé, elle peut avoir ces effets-là. Prochainement, d'ailleurs, je ferai une émission sur les effets de la télé en m'appuyant sur ces bouquins de neurologues que j'ai lus et d'autres avis que j'ai entendus ailleurs. Alors, les autres aspects du sensationnalisme, ça va être de traiter certains sujets plutôt que d'autres. Le sujet le sujet le plus récurrent dans ce genre de cas où l'on recherche l'adhésion de tout le monde, ça va être le fait divers. Le fait divers. Dans tout ce thème, depuis tout temps, pardon, ce thème a réussi et à réunir la foule, avide de sensations. On sait tous que le sang, le sexe, le drame et le crime a toujours fait vendre, et le règne de l'audimat fait remonter à la une des journaux ces ingrédients-là. Mais les faits divers sont aussi des faits qui font diversion. Ça, c'est Pierre Bourdieu qui le disait comme ça. Les faits divers, dans un journal télé, ils font diversion. Ils occupent le temps qui pourrait être occupé pour dire des choses importantes. Ils prennent sa place, et du coup, ça n'a aucun sens. Comme le magicien ou le prestidigitateur, ils ont un principe élémentaire qui consiste à attirer l'attention sur autre chose que ce qu'ils font eux-mêmes pour arriver à faire passer leur tour de magie. Ils détournent l'attention. Une part de l'action journalistique moderne consiste à attirer l'attention attirer l'attention sur des trucs qui sont de nature à intéresser tout le monde, donc à capter l'audience. C'est ce qu'on appelle des faits omnibus, c'est-à-dire pour tout le monde. Les faits omnibus sont des faits qui, comme le disait Bourdieu, ne doivent choquer personne, qui sont sans enjeu, qui ne divisent pas, qui font le consensus, qui intéressent tout le monde, mais sur un mode tel qu'il ne touche à rien d'important, si ce n'est à la petite vie d'une personne ou deux prise dans ces faits divers. De la même manière que lorsqu'on croise une personne que l'on connaît mal, on va utiliser ces faits omnibus en parlant de la pluie et du beau temps pour ne pas cliver la conversation, pour pas blesser, parce qu'on connaît pas la personne, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas si on peut la heurter en parlant de certains sujets. C'est exactement la même chose. On va faire du fait divers, puisque le fait de savoir qu'une personne s'est fait agresser à tel ou tel endroit, bah, ça va capter l'intérêt de tout le monde. On va se dire, oh, bah, la pauvre personne, etc., etc. En racontant donc quelques faits divers sordides, ou pas, c'est selon, hein, mais c'est quand même plus comme ça que ça se passe en général, on va donc créer un consensus où les gens de droite ou de gauche, ou peu importe, ou selon même ceux qui sont apolitiques, ou peu importe la position sociale, etc., tout le monde se sentira d'accord, et tout le monde pourra être capté par ces messages. Et donc le média qui propose ce genre d'infos pourra capter n'importe quel type d'audience. Il se prive de personne. Puis par-dessus le marché, les quelques faits divers sordides permettent aussi au passage d'angoisser un peu tout le monde et de donner un petit sentiment d'insécurité. C'est sûr que quand on entend toute la journée répéter au journal de 20h ou à n'importe lequel, alors délinquance ici, délinquance là-bas, meurtre par là-bas, vol de trucs, etc., forcément ça angoisse. On se dit, mais on peut avoir un sentiment d'insécurité. Rappelez-vous surtout que le fait divers fait diversion, comme je disais. Quand on raconte des histoires comme telle personne s'est fait flasher à 200 km/h, ou alors un homme a poignardé une femme, ou que telle personne s'est fait agresser, ou que des voitures ont brûlé, etc., bien entendu que c'est malheureux pour les pauvres personnes à qui ça arrive, c'est pas ça la question. Mais pendant ce temps, ça occulte les vraies choses, les décisions politiques qui ne seront pas analysées dans les détails, comme par exemple étudier sur ce qui arrive aujourd'hui, étudier si le fait de faire des cadeaux fiscaux aux entreprises, comme ça l'a été fait dernièrement, garantit une création d'emplois par la suite. Tout le monde a la réponse en fait, mais personne ne veut la donner. C'est chiant, c'est pas rassembleur pour l'audience, alors on n'étudie pas ce sujet. Mais on va par exemple parler, comme j'ai entendu dernièrement, on va évoquer le cas de deux parents qui ont tabassé et tué leur enfant. Bien sûr que c'est malheureux et que c'est horrible, mais qu'on voit le temps que ça occupe dans les journaux télé, ou même radio ou écrit, moi je trouve ça quand même assez affligeant. Il y a quand même, non pas dire pour les personnes à qui c'est arrivé que c'est pas important, mais est-ce que répéter ça à longueur de journée, ça a vraiment un intérêt? Enfin bref. Ce que je disais, il ne faut pas occulter pour autant ce qui se passe, mais est-ce que le fait d'être au courant de tout un tas de petits faits divers glauques à longueur de journée va nous aider à juger de la vie de notre société correctement? J'en suis pas certain. Au contraire, tout ceci est stressant pour tout le monde, et l'on sait que tous que quand on est angoissé et effrayé par le monde qui nous entoure, et surtout lorsqu'on est mal informé des politiques de fond qui sont menées, et ben on vote pas forcément bien pour notre pays, parce qu'on est influencé, on est mal informé. Alors tiens, il me semble que au passage j'ai totalement oublié quelque chose, c'est que je voulais passer un petit morceau et je vais le passer. Voilà, c'était là, il fallait que je passe un morceau. Et ben je vais vous le passer maintenant. Alors donc ce morceau s'appelle London's Burning, et c'est un morceau des Clash. En avant. London's Burning. London's... Vous êtes toujours dans Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canus en 2.2 FM à Lyon. Ce soir, le thème de l'émission, c'est la classe médiatique, le champ journalistique. On s'appuie un peu sur les études de Pierre Bourdieu. Je vous ai parlé d'énormément de choses dans la première partie avant le morceau là. J'aurais dû peut-être mettre le morceau un peu avant parce que je pense que ça devait être très dense et très lourd et j'ai parlé vite, donc il y a peut-être des informations qui sont passées à la trappe. Je vais essayer de refaire vite fait le point de manière un peu générale. Alors comment expliquer ça? Donc le premier aspect qu'on a évoqué, c'est le fait qui est soulevé par Pierre Bourdieu, que la classe journalistique, celle qui mène les interviews et qui occupe les médias en permanence, est recroquevillée sur elle-même. Elle est un peu éloignée des réalités du peuple, ce que Victor Hugo appelait la plèbe, le petit peuple, les ouvriers, le prolétariat. Donc forcément, les questions qu'ils vont poser aux hommes politiques ou à plein d'autres personnes seront éloignées des réalités des gens. L'autre aspect que j'évoquais aussi, c'est le fait que les journalistes, qu'ils soient dans une radio ou dans une autre, ont tendance à vaguer entre radio de service public et radio privée, alors qu'on sait que les principes même de la radio privée et de la radio publique ne sont pas du tout les mêmes. Il y en a un dont l'objectif, c'est de faire du profit, donc de faire de l'audience, de l'audimat. Alors on a une manière particulière d'évoquer les informations, etc., etc. On va faire du sensationnalisme. Que sur la radio de service public, logiquement, même si aujourd'hui c'est plus le cas, puisque les personnes formées par le privé finissent sur le service public, normalement sur le service public, on doit prendre le temps, s'occuper du fond, et donc on n'est pas rétribué par la publicité, donc le pouvoir économique n'a pas d'influence, a priori, sur les services publics. Donc ça c'est le deuxième aspect que j'évoquais. Le troisième aspect qu'on a évoqué, c'est donc la recherche d'audimat qui peut être vicieuse parce qu'elle emmène à faire du sensationnalisme, ce que j'évoquais un peu quand je parlais du privé. Et là-dedans, on peut retrouver ce qu'on appelle le fait divers, qui fait diversion selon Bourdieu. C'est-à-dire que pendant qu'on est occupé à parler de ce qu'on appelait à l'époque dans les journaux la rubrique des chiens écrasés, quand on est occupé à parler du chien qui s'est fait écraser au coin de la rue, et ben pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes et on n'évoque pas la réalité des gens. Et on prend du temps médiatique pour dire des choses qui ne sont pas inutiles, mais presque, parce que les gens peuvent le savoir. Mais est-ce que c'est vraiment utile de faire 10 minutes dans un journal télé sur un meurtre ou un fait divers qui a eu lieu à tel ou tel endroit? Alors voilà pour résumer un peu l'histoire. Alors, concernant Pierre Bourdieu, c'est une personne qui est morte en 2002, donc ça fait un peu plus de 12 ans qu'il nous a quittés. Il a fait énormément d'études sociologiques sur les médias, également sur plein d'autres choses. Il a écrit tout un tas de livres, donc celui sur la télévision qui s'appelle « Sur la télévision » tout simplement, qui est très petit et super intéressant, à part le tout dernier chapitre qui est très technique et qui est vraiment du jargon de sociologue au premier degré. Ça c'est vraiment lourd à lire pour ceux qui sont pas vraiment comme moi, qui sont pas du tout instruits à ce genre de jargon sociologique, mais c'est vraiment super intéressant parce qu'il a un point de vue qui sans dénigrer essaie de comprendre l'attitude du journaliste et ce qui peut amener à avoir les réactions qu'ils ont et aussi ce qui peut amener à l'autocensure. Ce livre est vraiment très intéressant. Je conseille exactement, pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, à connaître Pierre Bourdieu, un film de Pierre Carl qui s'appelle « La sociologie est un sport de combat » qui se trouve sur tous les sites internet qui relaient des vidéos comme YouTube, Dailymotion. Vous tapez « Pierre Bourdieu, la sociologie » et vous allez tomber directement sur ce film de Pierre Carl qui est exceptionnel. C'est en fait Pierre Carl qui a, par je dirais curiosité et passion au sujet de cet homme, a décidé de le suivre pendant je sais pas combien de temps. Il en a fait un film de à peu près 2h30 et il y a vraiment des séquences énormissimes où on entend Pierre Bourdieu parler de sociologie, par exemple, parler de misogynie, de machisme en l'occurrence. Et il y a également des conférences où il se retrouve avec des jeunes de quartier où il essaye de leur faire expliquer qu'il faut qu'ils prennent conscience que tant qu'ils se prendront pas aux mains et qu'ils essayeront pas de retourner la table, les choses n'avanceront pas, qu'il faut qu'ils se cultivent, qu'ils lisent des livres, qu'ils fassent des choses. Enfin, il y a tout un tas de séquences comme celle-ci qui sont super intéressantes dans ce film et je vous invite vraiment à le regarder et je vous le recommande très 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 chaudement, ne serait-ce que pour voir le personnage, ce qu'il était, parce que moi personnellement je le trouve super attachant. Enfin bref, voilà, c'était pour la petite aparté sur Pierre Bourdieu. On va aussi évoquer la deuxième personne qui m'a inspiré pour parler de ces thèmes-là, c'est aussi Noam Chomsky. Alors c'est pour certains, il est considéré comme le plus grand intellectuel en activité. Bon, ça peut, on peut se poser la question. Les classements, c'est pas trop mon truc. Donc après, c'est l'un des plus célèbres. Il est américain et il a énormément travaillé lui sur la linguistique plus que sur la sociologie. Il est classé dans les linguistes et les philosophes. Il a notamment été à l'origine d'une théorie qui est comment ça s'appelle? C'est une théorie, pour expliquer un peu le principe. Selon lui, qui est linguiste, il s'est rendu compte qu'il y avait des ressemblances de principes sur tous les langages qui étaient parlés sur la Terre. Et s'est rendu compte qu'il y avait des formes grammaticales qui n'étaient pas ressemblantes, mais que les origines et les bases de tous ces langages-là étaient les mêmes. Et il a écrit une théorie là-dessus, alors je ne me rappelle plus exactement le nom, c'est la grammative, je ne sais plus exactement ce que c'est le nom de sa théorie. Et en fait, lui, il a totalement, j'ai pas vraiment creusé plus le sujet, mais il a vraiment révolutionné la linguistique sur ce thème-là. Et à côté de ça, c'est un intellectuel énormément engagé, qui fait tout un tas de conférences, etc. Et qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Je vous invite aussi à voir tous les films qui sont sur lui, sur Internet. Il y en a tout un tas. Vous allez sur YouTube, vous tapez Noam Chomsky. Vous allez tomber sur tout un tas de films, notamment La Fabrique du Consentement, etc. Qui sont des films super intéressants. Bon, ils sont en VO sous-titrés, mais on apprend énormément de choses sur le fonctionnement des médias et sur la société en général. Voilà, je vous ai bien pris la tête avec les deux intellectuels, Noam Chomsky et Pierre Bourdieu. Alors maintenant, on va se remettre un petit morceau avant de passer à la suite. On va mettre un petit morceau de 6 heures qui s'appelle Sympathétique. Voilà, c'est un jeu de mots parce que ça veut dire sympathique et pathétique en même temps. Voilà, vous avez compris. Bon, c'est bon, je sors. Allez, c'est parti.
Fading away.
Vous êtes toujours sur Radio Canus en 2.2 FM, dans les yeux grands ouverts. Je vous souhaite toujours une bonne soirée. Alors nous, il est minuit moins 10, nous allons continuer le thème de la soirée, qui est les débats. Avant tout ça, je tiens à rappeler que nous avons la boîte mail à la poste, lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, que nous avons la page Facebook, les yeux grands ouverts, et que nous avons désormais également la chance d'avoir le blog de Radio Canus, qui permet de récupérer les podcasts, enfin de les écouter en ligne, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui sont intéressés. Alors vous allez tout simplement sur le site de Radio Canus, vous cliquez sur la partie programmation et vous regardez, vous cherchez les yeux grands ouverts qui sont le dimanche de 23h à minuit, vous cliquez sur le nom de l'émission et alors à ce moment-là vous allez tomber sur le blog où vous aurez la possibilité de récupérer, enfin d'écouter tous les podcasts en ligne de toutes les émissions qui ont été faites. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour l'instant il n'y a que les deux émissions sur les médias parce que nous n'avons pas eu le temps de mettre les autres. Mais vous aurez les autres après, un peu plus tard. Voilà pour les yeux grands ouverts et l'actu. Alors nous allons continuer le thème des médias. Tout à l'heure j'ai fait une petite aparté où j'expliquais un peu qui sont les deux personnes qui m'ont inspiré pour faire cette émission, la manière dont ils ont étudié la classe médiatique, si je puis m'exprimer ainsi. Alors on a attaqué plein d'aspects différents, qui étaient notamment celui de l'audimat. On essaye d'attaquer donc tous les aspects qui peuvent mener à l'autocensure. Les journalistes qui occupent les écrans et les transistors en permanence peuvent être sujets à ce genre d'autocensure. Il y a donc l'effet audimat que j'évoquais juste avant, la recherche du sensationnalisme qui n'est pas vraiment un bon guide pour l'information puisqu'elle doit être sereine, on doit prendre le temps de penser et rechercher avant de poster des informations. Il y a également la recherche du scoop aussi, dans ce qu'on appelle le marché de l'info. Obtenir un scoop, c'est obtenir un avantage concurrentiel sur tous les autres médias. Cette recherche entraîne de la précipitation qui n'aide pas à approfondir les infos que l'on traite. On arrive à des sottises incroyables à cause de cela, de cette fameuse recherche du scoop pour vendre. Comme c'est arrivé dernièrement, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode là, mais Libé vient faire sa une sur une rumeur suite à l'affaire Cahuzac, pour tenter de doubler les autres en fait. Ils avaient prétendu que plusieurs autres ministres étaient mouillés dans un scandale de ce même type et que Mediapart allait les divulguer très prochainement, qu'ils avaient les noms. Mais évidemment, c'était totalement faux. Mediapart n'avait absolument rien du tout et n'avait rien communiqué du tout et n'avait jamais prétendu ce genre de choses. C'est juste des rumeurs qui tournaient. Et Libé, voulant essayer de se raccrocher au wagon, puisqu'ils étaient un peu passés pour des imbéciles aussi, parce que les journaux comme cela, ils n'ont pas sorti de scoop ou d'enquête vraiment révélatrice depuis très très longtemps, se sentant un peu con en s'étant fait doubler par Mediapart, qui est un journal sur Internet, ils ont essayé de sortir un scoop avant tout le monde. Et en fait, ils ont raconté n'importe quoi, ce qui a provoqué d'ailleurs une petite crise au sein de Libé. Je crois qu'à l'époque c'était encore Nicolas Demorand qui était à la rédaction en chef, et depuis il est retourné sur France Inter. Alors on a eu également d'autres cas qui ont été provoqués par cette recherche fameuse du scoop. Ça a été également le cas au journal de 20h de France 2, bon ça remonte un peu plus loin, c'était en 2004, où Pujadas et son équipe s'étaient précipités pour donner un fameux scoop. C'est qu'en fait c'était un scoop qui n'en était pas un, puisque c'était tout simplement faux ce qu'ils ont raconté. Ils avaient prétendu à la une du journal que Juppé, suite au résultat d'un procès défavorable pour lui, allait arrêter totalement la politique, qui stoppait tout. Alors que Juppé a annoncé 2 minutes plus tard sur TF1 qu'il continuait à faire de la politique et qu'il n'avait pas l'intention de s'arrêter suite à ce jugement. Alors tout ça, ça a entraîné des réactions, hein. Forcément, Pujadas a été suspendu d'antenne pendant 2 semaines. Et la personne qui était chargée de gérer les journalistes, je sais plus comment on appelle ça, directeur d'antenne, je sais plus qui a été tout simplement, enfin qui a posé sa démission et sa démission a été acceptée, donc il a quitté son poste. Donc il y a quand même des conséquences suite à ce genre de truc. Tout ça, c'est des exemples concrets et énormes qui n'arrivent pas souvent, je le concède bien, hein, c'est quand même rare qu'il y ait des erreurs comme celle-ci. Mais si ces fautes énormes arrivent de temps en temps, imaginez ce qui peut arriver dans les détails, comment on traite les choses pour tenter d'obtenir un scoop. Forcément, ça doit avoir aussi une influence. Le dernier aspect que j'évoquerai ce soir, c'est, et qui évidemment attente aussi à la liberté de la presse en profondeur, et qui sera un peu étayé par un document audio que je vais vous passer après, c'est la précarité par exemple. Comme c'est le cas de nos jours, un journaliste payé à la pige, ce qu'on appelle les pigistes, donc c'est en gros, il arrive avec son info. Il a, une photographie, un article, n'importe quoi à vendre. On le paye à la pige. Et après, en dehors de ça, il n'a pas de travail. ou avec, souvent, il y en a certains qui ont la chance d'avoir des contrats, mais bon, c'est des contrats à très court terme. Donc, par conséquent, tous ces journalistes n'ont aucune certitude sur leur lendemain. Avec des salaires très bas, en plus, pour ceux qui bossent dans les rédactions, à part, bien sûr, il y a les journalistes médiacrates qui, eux, touchent énormément d'argent, mais dans les petits journaux, les personnes qui sont occupées de rédiger les petits articles, eux sont souvent très mal payés et ont des contrats totalement lamentables, qui sont précaires. Ils ont même certains, pour la plupart, il y a des chaînes qui en profitent pour utiliser le statut d'intermittent du spectacle pour rémunérer les journalistes. Comment ces gens-là peuvent-ils faire des enquêtes structurées et réfléchies et profondes avec des situations sociales comme celle-ci? Ils sont pris à la gorge, alors que font-ils? Parce qu'ils sont pris à la gorge, il faut bien qu'ils touchent de l'argent pour vivre et pour manger, quoi. Alors forcément, comme ils sont pris à la gorge, ils donnent aux journaux ce que le directeur de rédaction leur commande. Ils se taisent, ne font pas preuve de trop de perspicacité, et surtout, ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement à pouvoir bouffer, donc à toucher de l'argent. Je dis pas que tout le monde réagit comme ça, mais c'est forcément une contrainte qui peut avoir ce genre d'effet. Ils cherchent surtout les journalistes pigistes ou les autres qui ont des contrats précaires à vendre leurs articles. Sinon, pas de revenus, donc pas de travail. Non, c'est l'inverse. Sinon, pas de travail, donc pas de revenus. Excusez-moi. Ce manque de sécurité de l'emploi les prive entièrement d'une sérénité nécessaire pour effectuer des enquêtes de long terme approfondies. Forcément, si on n'est pas sûr du lendemain, obligatoirement, on va mener les choses mal, parce qu'on va vouloir rendre des sujets rapidement pour pouvoir toucher un peu d'argent. On prendra pas le temps de creuser et de tout étudier. Alors il y en a peut-être qui sont prêts à faire ce genre de sacrifice, ou alors des gens qui ont la chance d'avoir déjà un capital peut-être s'en sortent bien, mais pour la plupart c'est très compliqué. Et pour étayer un peu tout cela, pas forcément sur l'aspect de la précarité, c'est pas forcément de ça dont va parler Noam Chomsky, mais on va parler de ce qui est implicite, ce qui se passe dans la tête des journalistes et du système médiatique en général. Alors donc c'est un petit document de Noam Chomsky qui est issu de l'émission Là-bas si j'y suis, qui passait sur France Inter feu quelque temps. Et donc le sujet, ils ont d'ailleurs, il y a un DVD aussi qui est sorti là-dessus qui s'appelle Chomsky et compagnie, que je recommande aussi chaudement à tout le monde, réalisé par Daniel Mermet et produit par les Mutins de Pangée, il me semble. Donc c'est un interview. La question qui lui est posée à Noam Chomsky, donc vous allez entendre, il est traduit par Guy Vanctil en décalé. C'est peut-être donc du coup c'est un peu plus compliqué de tout capter, mais il faut essayer de garder en mémoire ce qui a été dit avant. La question qui lui est posée par Daniel Mermet juste avant, ça je l'ai coupé. Pourquoi lorsqu'on demande à un journaliste, n'importe lequel, dans des grands médias, s'il a l'impression d'être libre, il nous répond que oui, et en plus quand il le dit, il le formule de manière où on a l'impression qu'il est vraiment honnête, et il doit certainement être honnête. Parce que pour lui, il est vraiment libre. Il se rend peut-être pas compte qu'il est dans un. Qu'il a des œillères et qu'il travaille dans un milieu qui lui ferme un peu sa perception. Ensuite, après ce petit document de Noam Chomsky, on va enchaîner avec le billet d'humeur, parce qu'il nous reste qu'un petit quart d'heure. Allez, on envoie Noam Chomsky.
Well, journalists do say, when they're criticized, journalists do say, I'm absolutely free, there's no pressure on me at all. I write any column I want to write, and so on, and it's correct.
Les journalistes, quand ils sont mis en accusation, ils disent tout de suite, personne ne fait pression, j'écris ce que je veux, je suis libre de prendre toutes les positions que je veux.
However, if they took positions that were outside the accepted framework, they wouldn't be writing the columns.
Mais s'ils prenaient des positions, par exemple, des opinions qui vont en dehors de l'idéologie dominante, là, ils écriraient même plus ces billets d'humeur ou ces éditos.
This is not 100%. So, for example, I can write op-eds in American newspapers, but it's overwhelmingly the case.
Non, c'est bien sûr, c'est pas 100% des cas. Moi-même, je peux écrire des éditoriaux dans la presse américaine.
It's not a totalitarian state.
C'est pas un état totalitaire non plus.
But the fact of the matter is that unless you meet certain requirements and conditions, you're not going to be a leading commentator.
Mais si tu rentres pas dans un certain cadre, dans un certain nombre de critères, tu ne seras pas pris en compte comme un des commentateurs écoutés.
And in fact, that illustrates the way the difference between propaganda systems in totalitarian states and in democratic societies.
Et ça montre la différence qu'il y a sur le fonctionnement de la propagande dans des états totalitaires et dans des démocraties.
A little bit of exaggeration, but in general it's like this. In a totalitarian state, State power produces the party line, it declares the party line, and you have to adhere to it.
En exagérant un peu, dans les États totalitaires, c'est l'État lui-même, la tête de l'État, qui décide de la ligne à suivre et la propagande qui viendra avec, et chacun doit s'y conformer et s'y soumettre.
In democratic societies, it doesn't work like that.
C'est différent dans les sociétés démocratiques.
The party line is never articulated. It's presupposed.
La ligne du parti n'est jamais énoncée comme telle. Elle est sous-entendue.
And then, within that presupposition, it encourages passionate debate, but within the framework of the presupposition.
Voilà. Et dans ces présupposés, dans ces sous-entendus, là, on pourrait y avoir, dans ce cadre strict des présupposés, un débat passionné, mais qui sera limité à tout ce qui n'est pas dit.
Now the system in the democratic societies is very effective. It instills the party line because nobody even questions it. It's like the air you breathe, you don't look at it. So it instills the party line and it gives the impression that there's a vigorous debate.
Voilà, dans les sociétés démocratiques, la ligne directrice, la ligne, elle est comme l'air qu'on respire. Elle est sous-entendue, elle est sous-tendue et donne du coup l'impression à tous les gens qu'il y a un débat très vigoureux.
It's a very effective system. Works much more effectively than in a totalitarian
system. Et c'est très efficace comme système et que ça marche beaucoup mieux que dans les systèmes totalitaires.
Bonjour et bienvenue dans les actualités françaises. Appel à tous les citoyens, à la demande du ministre du Travail, François Rebsamen, l'État appelle le peuple à dénoncer. Comme le suggère notre très cher ministre du Travail, garant du léchage de fesses du MEDEF, nous recommandons vivement à tous nos citoyens de vérifier et même de surveiller si dans leur entourage, il n'y aurait pas de chômeurs profiteurs, oisifs et patentés, qui ne cherchent pas vraiment du travail. Notez les noms à l'aide de petits papiers, que vous enverrez par la suite soit au Trésor public, qui se chargera de relayer, soit directement à la gendarmerie du coin. Ce service rendu sera grassement payé. Afin que nous puissions vérifier l'engagement à tout craint dans la recherche de boulot pourri et mal payé. Merci à tous pour que tous ensemble nous mettions fin aux profiteurs et aux débrouillards de la décadence. Merci encore.
Bonjour, pain, je sais plus quoi faire.
Qu'est-ce qui t'arrive?
Bah, c'est les gens qui me critiquent, donc Cahuzac. Certains prétendent qu'il serait grave d'oublier de payer ses impôts. Mais pourtant, on a toujours fait comme ça dans la famille.
Ah oui, mon petit, mon pauvre petit Thomas Thévenoud. C'est vrai qu'on a toujours fait comme ça, mais il faut s'en arranger un peu quand même. Tu payes un tout petit peu au fisc français, mon petit Thomas. Et après, le reste, tu le caches en Suisse. Je connais un gars là-bas qui te blanchit juste en échange d'un plan capillaire bon marché. Mais qu'est-ce qui s'est exactement passé?
Bah, ils m'ont nommé au gouvernement. Et quand ils ont su que j'avais pas payé mes impôts depuis 3 ans parce que j'avais rien déclaré, bah, ils m'ont viré, quoi. Alors je leur ai dit que je souffrais de phobie administrative.
Ah oui, c'est pas mal. Mais là, tu les as un peu pris pour des lapins de 3 semaines. Fallait faire comme moi, écoute. Je vous jure, les yeux dans les yeux, que je n'ai pas, et je n'ai jamais eu, et je n'aurai jamais de compte en Suisse. C'est pas moi, j'ai rien fait.
Oh ouais, trop fort, j'aurais dû faire ça. Mais il y a un autre problème.
Quoi? Qu'est-ce que t'as fait?
Mon cher Don Cahuzac, je ne payais plus mon loyer depuis 3 ans, ni mon kiné.
Ah bon? Mais t'es con! Personne n'oserait faire ça. Même moi, j'oserais pas. Tu passes pour un imbécile devant tout le monde, là. Phobie administrative. Mais faut vraiment être tout cogno pour dire un truc pareil. Mais sérieusement, tu vas finir par m'apporter des problèmes, toi. Allez, fiche le camp là-bas. Suis poli. Il va te faire une proposition que tu pourras pas refuser. Pff. Phobie administrative. Stronzo.
One, dos, tres. Le tango des élus, paroles de Renaud Séchant, musique de Renaud Séchant, interprétée de Renaud Séchant et tous ses musiciens, chanson courte mais suffisante. Et dire que chaque fois que nous votions pour eux, nous faisions taire en nous ce cri, ni Dieu ni maître, dont ils rient aujourd'hui, puisqu'ils se sont fait Dieu, et qu'une fois de plus, nous nous sommes fait maître. Et puis c'est tout. Moi je le fais mieux. Et alors du con?
Fuck you.
Ah bon? That's a great, great combination of languages.
Vous êtes toujours dans l'émission Les Yeux Grands Ouverts sur Radio Canus en 2.2 FM après le petit craquage du billet d'humeur. Nous allons un peu poursuivre. Que dire de plus ? Nous allons la semaine prochaine certainement évoquer des sujets différents. Enfin, on va toujours parler des médias, mais on va l'évoquer par des aspects différents. On va encore s'appuyer encore un peu plus sur Noam Chomsky. On va abandonner un peu plus le côté bourdieusien qui lui fait vraiment de l'étude sociologique de ce qui se passe au niveau des journalistes. Et donc, on va s'appuyer sur des documents audio. Je vais également essayer de mettre en avant, même si c'est quelque chose de très compliqué, essayer de déterminer quelle influence peuvent avoir les médias et leurs messages, parfois fallacieux, sur l'opinion publique. Car on sait qu'à certains moments, ces choses-là ont vraiment une influence. On se rappelle tous de 2002 avec Jean-Marie Le Pen au deuxième tour. On sait tous très bien que même si les médias passent leur temps à défoncer Jean-Marie Le Pen et le FN et à essayer de le descendre, à côté de ça, ils utilisent et ils traitent de sujets de fond qui arrangent énormément l'extrême droite, comme par exemple l'insécurité ou tout un tas de choses. Donc essayer de déterminer quelle influence ça a. On va aussi un peu légèrement évoquer le référendum de 2005, qui a énormément été dénoncé par pas mal de gens, parce que la clique des médiacrates était énormément, qu'on va dire, partisane et défendait beaucoup Louis. Pour exemple, enfin, moi qui suis plutôt auditeur de France Inter, on sait tous que Bernard Guetta a passé son temps à défendre le oui, et même encore aujourd'hui il le fait d'ailleurs. Donc quels effets peuvent avoir cette influence médiatique? On sait qu'à certains moments ça peut même limite être contre-productif. C'est ce qui s'est passé en 2005, puisque les gens ont voté à 54% non pour le traité européen. Mais on sait qu'à certains moments ça peut influencer quand par exemple on traite de sujets de fond qui ne concernent que l'économie libérale. On fait donc ainsi baigner les gens dans une espèce de bain idéologique. Alors même si les gens ne sont pas totalement imbéciles et qui savent qu'à certains moments ce qu'on leur raconte, il y a des choses qui sont vraies, fausses et qu'ils en ont un peu ras-le-bol qu'on leur fasse des leçons de morale du matin jusqu'au soir, le fait qu'on propose aucune alternative aux gens tout au long de la journée, ça a forcément une influence sur le long terme. Donc c'est par cet aspect-là qu'on va essayer de traiter des médias. Je pense que ce sera certainement la dernière émission sur le sujet. Après, on passera à autre chose. Je pense qu'après l'émission sur les médias, on va essayer d'attaquer autre chose. Je pense qu'on va attaquer un petit cours d'autodéfense intellectuelle. C'est notamment encore une chose qu'évoque Noam Chomsky. Il dit que pour lui, il devrait y avoir, dans toutes les écoles, il devrait donner des cours d'autodéfense intellectuelle pour que les gamins n'apprennent pas juste à répéter bêtement ce qu'on leur dit, mais qu'ils apprennent à savoir, à trier les infos, à être critiques par rapport aux infos qu'on leur donne. C'est donc par l'intermédiaire d'un bouquin qui a été écrit par un Québécois qui s'appelle Normand Baillargeon, qui lui fait un bouquin, je sais plus, il doit faire 150 pages, 200, et il donne plein de petits éléments pour l'autodéfense intellectuelle. Donc je vais essayer de vous relayer ça et apprendre, entre guillemets, à comprendre comment fonctionne notre cerveau, notre perception, et essayer de se méfier de certains messages qui nous sont passés au quotidien. Alors, vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts, et puis il y a la boîte mail, il y a la page Facebook, toujours les yeux grands ouverts, il y a le blog pour écouter les podcasts. Et pour ce soir, eh ben, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Avant ça, je vais vous passer un petit morceau qui s'appelle Bal Populaire. C'est le groupe MAP. Alors, allons-y.
1, 2, 3, 4.
Bal populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fonte. Terroir révolutionnaire, t'illumine une bombe, une...
sphère populaire. Au-delà de toute frontière, plus de ghetto, plus de barrière. Rondo, tous des frères, plein de repères. Jacques, Brelbord, Marley, Aznavour, Labbé, Pierre. Notre art populaire, musique d'ici et d'ailleurs. On en a fait un ministère pour un monde meilleur. Influence, d'influence, de sonorité différente. De Roubaix à New York en passant par Alger la Blanche. Du bon son pour tout le monde, du Joe dernier jusqu'au grand-père. L'album populaire vers son troisième millénaire. Juste pour faire bouger les consciences, vasser les préjugés. Rien à faire qu'à entrer dans la danse, laisser aller. À l'heure du repli communautaire à l'aube d'une troisième guerre. Aux ordres, on reste réfractaire, attitude salutaire. Que ceux qui jouent avec les peurs pyromanes incendiaires prennent ce morceau en plein cœur comme une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Moi c'est Jazz, le maquisard, petit fils de Mujahid, le montagnard. Sans hymne, sans drapeau, sans nation ni patrie. Hybride culturel entre Occident et l'Algérie. Contre la haine et l'injustice, j'ai pris les armes. Pour la mémoire de mon peuple, j'ai pris les armes dans ma cible. Dictateur et colonisateur, oppresseur, esclavagiste. Dans mon viseur, en guerre contre bavure, police, raciste. En guerre contre inégalité, pouvoir, fascisme. Mon hip-hop, j'écris quand on prend un drapeau blanc. Soldat pour la paix, je rime pour les innocents. Contre les dictatures, les embargos, les colonies. Les bombardements, les invasions, les tyrannies. J'rime pour la révolte, les coups d'état, les rébellions, les mutineries, les résistances et l'insurrection.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire.
Violon, accordéon, grosse caisse, chalet, caisse claire. C'est clair, frère, ça va jaser dans les HLM et les chaumières. Et dans nos concerts, les têtes de Mouz, des Robert. Tous des bounoules, des négros, des chintocs, des chabères. Une seule et même musique, un seul et même bon son. Bon sang, bonsoir, ça faire pour la révolution. Que les choses bougent enfin, que les gens bougent ensemble. La connerie humaine divise quand notre musique rassemble.
Ça vient d'en bas, du sous-sol, du fond de la cave. Tu fais maison, l'artisanat, la sonde brave. Un fennec, du bitume, du pavé, sale crevard. Les tontons, flingueurs, du macadam, du boulevard. Les poètes de l'asphalte, les artisans du béton. Chercheurs de rimes, remplis de palanter et flon. Je t'envoie tel un kamikaze révolutionnaire. Une mine, une bombe, une balle populaire.
Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire. Telle une mine, une bombe, une balle populaire. Balle populaire de la France profonde qui fait tourner les têtes comme une vase, comme une fronde. Un produit du terroir révolutionnaire.
Vous êtes toujours dans les yeux grands ouverts, on arrive au terme de cette émission, il est 20... Non, eh non, il n'est pas 20, il est minuit et quart. Donc, pour la première fois, je crois depuis le début que l'émission existe, on arrive à faire une émission qui dure pile une heure. D'habitude, on a toujours débordé, et là, c'est impeccable. Alors, je resitue toujours, je redis, la boîte mail lesyeuxgrandsouverts@laposte.net, la page Facebook... Et puis aussi le blog pour aller écouter les podcasts qui sont sortis. La semaine prochaine, on fera encore une émission sur les médias. J'espère que tout ce que je vous ai dit vous a un peu éclairé sur tout ce que je vous ai relayé, parce que c'est des trucs que, pour la plupart, m'ont été inspirés par ce que disait Pierre Bourdieu, le sociologue. Mais j'ai aussi un peu pondu des trucs qui venaient de moi. Alors j'espère que ça vous éclaire et que ça vous permettra d'être un peu plus critique sur la manière dont vous voyez les journalistes et la manière dont ils ont de traiter l'info. Voilà, que vous ayez un peu plus de recul par rapport à tout ça, la manière dont ils interviewent les gens. Il y a un autre aspect aussi que je vais peut-être évoquer en deux secondes avant la fin de l'émission. C'est quand on mène un débat, Bourdieu dit que quand on interroge une personne, on se rend pas compte, mais il y a le langage et puis le geste, et il y a plein de manières qui font que on peut déstabiliser la personne qui est en face de soi. Il s'appuie sur un débat qui je crois date des années, c'était en 95, où il y avait une grève des trains. Et la manière dont étaient posées les questions aux délégués syndicaux n'était pas du tout la même que à Monsieur Perfit ou d'autres responsables politiques qui étaient à côté. C'est-à-dire que quand le présentateur posait une question au syndicat, au délégué syndical, il avait une manière de dire merci, genre il le congédiait, ou alors il le sommait à répondre immédiatement à sa question. Quand le délégué s'exprimait, il lui disait « Oui, mais je n'avais toujours pas entendu si ou ça ou machin. » Alors que quand il parlait aux hommes politiques, il leur parlait beaucoup plus distinctement et avec beaucoup plus de courtoisie. C'est tous ces petits détails du langage, parce que le langage n'est pas seulement des mots, c'est aussi une manière de parler, mais c'est aussi un langage physique qui peut être ressenti de manière agressive par le locuteur. C'est ce qu'on appelle dans ce cas-là, ce que Bourdieu appelle la violence symbolique. Donc voilà pour le petit aspect que je voulais remettre en avant. C'est pour ça qu'il faut bien regarder, être critique. Quand on voit n'importe quelle personne se faire interviewer dans un journal télé ou n'importe où, regardez bien les questions qui lui sont posées, écoutez bien, et vous vous rendrez compte qu'on ne pose pas tout à fait les questions de la même manière à une personne ou à une autre. Voilà pour ce soir, et ben je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. J'espère que cette émission vous a plu, qu'elle vous a éclairé. Et puis, ben, que vous souhaitez de spécial, si ce n'est une très bonne nuit et éventuellement beaucoup de courage pour la semaine de travail qui se prépare pour ceux qui ont du travail et pour ceux qui n'en ont pas. Et ben, écoutez, bon courage quand même. Et puis, à la semaine prochaine pour la quatrième et dernière émission qui sera consacrée aux médias. Ciao, ciao!
Écoutez Radio Canu, et là on vient d'entendre Boards of Canada avec Pontiac Dream.
Ensuite c'était Actress Splash avec le morceau Supreme Cunnilingus sur le label Honest Jones.
Et encore avant c'était Prefuse 73 avec Dubs That Don't Match.